Audiolib présente Miss Peregrine et les enfants particuliers, volume 2, Hollow City, de Ransom Riggs, lu par Benjamin Youngers. Pour t'aérer. Et voici venir vers nous, dans une barque, un vieillard blanchi par de longues années, criant « Malheur à vous, âme perverse !» N'espérez pas voir jamais le ciel, je viens pour vous mener à l'autre rive, dans les ténèbres éternelles, dans le feu et la glace. Et toi que voilà, âme vivante, sépare-toi de ces morts. Et voyant que je ne m'en allais pas, Dante, la Divine Comédie, L'Enfer, chant 3, traduit par Félicité Robert de Lamennais. Première partie. Chapitre 1. Nous avons traversé le port à la rame. Ici et là, des bateaux dansaient sur l'onde en pleurant des larmes de rouille le long de leurs soudures. Des jurys d'oiseaux de mer silencieux nous regardaient passer, perchés sur les vestiges de quais effondrés, colonisés par l'hébernacle. Les pêcheurs qui jetaient leurs filets interrompaient leur besogne pour nous observer, sans savoir si nous étions réels ou imaginaires. Des fantômes flottants ou des fantômes en devenir. Notre petite procession, 10 enfants et un oiseau, entassés dans 3 frêles embarcations, ramait vers la haute mer avec une tranquille intensité. Nous laissions derrière nous le seul refuge sûr à des kilomètres à la ronde, notre île magique, dont le relief escarpé se découpait dans la lumière bleue dorée de l'aube, pour rejoindre la côte déchiquetée du pays de Galles. Le continent était quelque part devant nous, à peine plus visible qu'une bavure d'encre à l'horizon. Dans notre dos se dressait le vieux phare qui avait servi de théâtre aux incidents tragiques de la veille au soir. C'était là que, sous une pluie de bombes, nous avions failli nous noyer et périr déchiquetés par des balles. Là aussi que j'avais saisi un revolver, appuyé sur la détente et tué un homme. Un acte que j'avais encore du mal à comprendre. C'était là, enfin, que nous avions perdu Miss Peregrine, avant de la retrouver et de la soustraire aux mâchoires d'acier d'un sous-marin. Hélas, notre directrice était blessée. Elle avait cruellement besoin d'aide, et nous étions impuissants à la secourir. Perchée à l'arrière de notre barque, elle regardait l'abri qu'elle avait créé pour ses protégés s'estomper dans le lointain. Passé le môle, nous avons mis le cap vers le large. Les eaux calmes et miroitantes du port avaient cédé la place à des vaguelettes qui léchaient les flancs de nos barques. J'ai entendu un avion filer entre les nuages et je me suis immobilisé, le cou tendu, l'oreille aux aguets. Je venais d'avoir une vision de notre petite armada depuis le ciel. Ce monde que j'avais choisi et tout ce qu'il contenait de précieux pour moi. Nos vies fragiles et particulières, entassées dans 3 coques de bois, à la dérive, sur le vaste œil de la mer, qui jamais ne sciait. Miséricorde. Nos embarcations glissaient de front entre les vagues, portées par un courant bienveillant. Nous avions prévu de ramer à tour de rôle pour éviter de nous épuiser, mais je me sentais si vaillant que pendant presque 1 heure, j'ai refusé de céder ma place. Je m'oubliais dans le mouvement mécanique de mes bras. Je traçais d'amples ellipses dans l'air comme si je voulais attirer à moi une chose qui me résistait. Hugh maniait les rames en face de moi. Derrière lui, assise à la proue, les yeux dissimulés par la visière d'un chapeau de soleil, Emma étudiait une carte déployée sur ses genoux. De temps à autre, elle levait le nez pour scruter l'horizon, et le simple fait de voir son visage baigné de soleil me donnait un regain d'énergie. J'avais l'impression que je pourrais ramer indéfiniment. Mais soudain, Horace, qui pilotait la barque voisine, nous a demandé quelle distance nous séparait encore du continent. Emma a lorgné l'île en plissant les yeux. Puis elle s'est penchée sur sa carte et a évalué la distance en écartant les doigts. Finalement, elle a déclaré, hésitante, « 7 kilomètres !» Millard, qui était dans notre